France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Claude Régis est un chercheur, un aventurier, un pionnier. Il est toujours à la recherche d'écritures nouvelles, radicales, qui tranchent avec la doxa théâtrale et proposent des nouvelles visions du monde et du théâtre. Son regard ne s'arrête pas à la nationalité ou à la célébrité d'un auteur. Au contraire, il prend presque un malin plaisir à dénicher les dramaturges moins connus, dont les œuvres sont trop fortes, trop violentes, trop incontrôlables pour les autres metteurs en scène. Ce n'est pas alors un hasard que le destin mette sur son chemin une pièce d'Edward Bond, qu'il met en scène en 1972, et pas des moindres. C'est à Saved, ou Sauvé, qu'il décide de s'attaquer, pièce devenue aujourd'hui un véritable monument du théâtre moderne. C'est une pièce qui parle de la misère sociale, de la guerre, de la destruction de soi, avec une violence rarement vue, du moins en France. C'est une pièce à la fois inédite, choquante et réaliste, fictive et pourtant si vraie qu'elle provoque un malaise profond chez les spectateurs. Dans cet extrait des Arts du spectacle de Claire Jordan, Claude Régis se confie au micro de Monique Sueur sur sa vision de l'œuvre de Bond, sur son travail de ce langage nouveau, à la fois pauvre et qui laisse une place extraordinaire à l'imaginaire. Une émission diffusée pour la première fois le 12 janvier 1972.
Oui, du reste, nous avions fait une émission spéciale au moment de sa création, c'est-à-dire La route étroite vers le Grand Nord, qui était la première pièce d'Edouard Bond montée en France, dans une adaptation de Béart, Henri Béart, qui était venu en parler, et c'est Guy Lauzin, qui précisément est le prédécesseur de Vergès à l'Odéon, qui avait monté cette pièce dans le Centre dramatique que dirige Gabriel Monet à Nice.
Alors, Monique Sueur a rencontré Claude Régis, le metteur en scène de la pièce de Bond. On sait que Régis a énormément de talent, on l'a vu dans sa réalisation de La mère de Mickiewicz au Théâtre Camille avec Madeleine Renaud, et Monique Sueur est allée à l'une des dernières répétitions de l'œuvre de Bond.
Claude Régis, vous assurez la mise en scène de Sauvé d'Edward Bond que le TNP présente actuellement à la salle Gémier. Et comment en êtes-vous venu à monter cette pièce de Bond après toute une longue lignée de théâtre anglais et particulièrement d'Harold Pinter ?
Oui, enfin, je n'ai pas monté Bond parce que c'est un auteur anglais. J'avais cessé depuis 2-3 ans de monter des auteurs anglais. Et en particulier, je m'étais juré de prendre un peu de distance vis-à-vis de Pinter. Mais il y a là une nouvelle génération, de nouveau, d'auteurs anglais. Il y a, comme on pourrait dire, une seconde révolution théâtrale anglaise. Et il se trouve que j'ai la chance de pouvoir monter cette saison deux pièces, une d'Edward Bond et l'autre de David Storey, qui sont les deux auteurs de cette nouvelle vague. En ce qui concerne Bond, je l'ai enfin découvert par une traduction qu'on m'a fait lire de la pièce Sauvée il y a déjà de cela 2 ans. Mais à l'époque, il y avait des problèmes de droit et je n'ai pas pu la monter tout de suite. Et quand j'ai vu Early Morning, j'ai été complètement fasciné. Je crois que c'est un auteur qui est tellement neuf, qui a trouvé un langage tout à fait moderne. Et comme toutes les choses très très nouvelles, que ce soit pour l'œil ou pour l'oreille, que ce soit la peinture ou la musique contemporaine, ça surprend les gens. Et ils ne sont pas toujours perceptibles à la première œuvre. Et en plus, si vous voulez, en ce qui concerne Bond, il y a eu mal donne, en ce sens qu'on a monté d'abord Early Morning, alors qu'il avait écrit Saved en premier. Et je pense que c'est une bien meilleure introduction à Bond de commencer par sa première pièce, parce qu'elle est d'un accès beaucoup plus facile directement, parce que la trame, le fondement de la pièce, le squelette, est beaucoup plus réaliste et s'appuie sur une réalité même très quotidienne. Tandis que dans Early Morning, il s'est abandonné déjà beaucoup plus librement à un espèce d'onirisme qui traduit les violences et les contradictions de son subconscient ou de son inconscient, ou surtout même, je crois, de choses qui sont au-delà de ce que la psychanalyse a pu nous faire connaître de l'inconscient, qui par suite a cessé d'être inconscient. Et je crois que l'inconscient s'est réfugié dans de nouvelles couches plus profonde. Et je pense que Bond les fait éclater avec une violence extraordinaire, tout en ayant envie de faire éclater par tous les bouts cette société extrêmement violente, extrêmement contraignante, extrêmement agressive qu'est la société industrielle dans laquelle nous vivons, et cette espèce de monde de fiction dans lequel nous sommes entrés déjà depuis de longues années sans nous en apercevoir. Nous vivons dans le rêve que les films de fiction, la littérature de fiction, c'est quelque chose qui se produira dans des années, alors que nous sommes complètement déjà introduits dans ce monde-là. Et ce qui est grave, c'est de ne pas en être conscient, je pense. Et je crois que la nouveauté de Bond, c'est de faire éclater les répercussions qui sont devenues déterminantes dans l'humanité depuis que nous sommes entrés dans ce qu'on peut appeler, si vous voulez, l'ère atomique, et toutes les extraordinaires découvertes où la science nous entraîne maintenant, et qui sont d'ailleurs des choses absolument fabuleuses, parce que justement la science moderne établit, les mathématiques modernes établissent que vraisemblablement ce qui est vrai, c'est l'imaginaire, et que la réalité est purement apparente. Si vous voulez, c'est une vérité poétique qu'on avait découverte théâtralement, mais il se trouve que c'est maintenant une chose qui est devenue scientifique. Or, la plupart des gens vivent encore à l'époque de la géométrie euclidienne, c'est-à-dire qu'ils croient encore que les droites parallèles ne se rencontrent jamais, par exemple. Et c'est pour ça que Bond est un auteur tout à fait neuf et tout à fait passionnant. Et cela dit, maintenant qu'Early Morning a été monté en premier, je pense que si c'est une malchance pour Bond, c'est-à-dire s'il a été mal reçu pour cette première œuvre, je pense pour moi c'est une chance, parce que en découvrant ses pièces suivantes, et spécialement la pièce qu'il vient d'écrire maintenant à partir de la pièce de Shakespeare, Le Roi Lear, en connaissant ses obsessions, en connaissant sa violence, en connaissant son délire et son onirisme, ça me permet peut-être de moins faire de fautes en montant Sauvé, c'est-à-dire en ne se contentant pas de monter simplement l'anecdote et de pas en faire une tranche de vie ouvriériste ou une pièce sociale comme on les faisait autrefois, mais à partir de ce milieu-là, qui est le milieu le plus atteint par les phénomènes dont nous parlions, à partir de là, de faire vraiment un espèce d'éclatement du monde contemporain.
Vous parliez de tranche de vie. Et comment avez-vous réussi à transcender cette tranche de vie ?
D'abord, j'ai pensé que ce qui était important, c'était de réussir, comme toujours, la distribution. Et le choix des acteurs posait de grands problèmes, parce que il y a deux catégories de personnages dans cette pièce. Il y a une famille avec une fille et son père et sa mère. Et puis, il y a une bande de ce qu'on est convenu d'appeler des voyous, c'est-à-dire ces gens dont on a des échos perpétuellement, tous les jours, dans la presse. Ça se situe à La Courneuve, ça se situe à Ivry ou à Vitry, ça se situe dans le Central Park à New York, ça se situe dans la banlieue de Londres ou dans la banlieue de Berlin. C'est un phénomène extrêmement présent dans nos vies, c'est tout le temps. Et il fallait que, en même temps, ces garçons soient complètement authentiques, c'est-à-dire il était absolument indispensable qu'ils aient vraiment appartenu à ce genre de milieu, qu'ils aient connu vraiment cette misère-là, qu'ils aient vraiment connu la vie de travail en usine. Et j'ai réussi à trouver 7 acteurs qui sont pourtant des comédiens professionnels, parce que par des rencontres extraordinaires, pour eux, ils ont réussi à s'évader de cette vie et à venir au théâtre. Et ce sont des gens qui sont donc très authentiques et à la réalité desquels on peut croire complètement. Et en même temps, ce sont tous des personnages qui sont capables de dédoublement, qui sont capables de transgresser la réalité et de passer de l'autre côté et de nous montrer à la fois ce qu'il y a en dedans et à la fois ce qu'il y a au-delà. C'est-à-dire, ce sont tous des gens qui sont capables de représenter des choses sur plusieurs dimensions, ce qui est absolument nécessaire. Et naturellement, pour les parents, j'ai aussi pris des acteurs qui peuvent être complètement authentiques au niveau de la réalité et qui sont capables du même dépassement. Quant à la jeune femme, elle est jouée par Elisabeth Vienner, que j'avais remarquée depuis très longtemps, et qui a des dimensions fabuleuses qu'elle n'a pas eu l'occasion de développer dans les pièces de théâtre qu'elle a jouées jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est une très grande chance d'avoir pu réunir tous ces éléments. C'est pas sans problème parce qu'ils sont tous très violents, ils sont tous très agressifs, ils sont tous à des niveaux de compréhension très différents. Et les répétitions ont été quelquefois difficiles. Et pour cette raison, on a travaillé un temps très long. Et on a commencé par faire toutes sortes d'exercices justement à propos de la violence et à essayer de chercher où sont les racines de cette violence, comment elle se manifeste, pourquoi elle se manifeste et surtout d'où vient la violence reçue. Parce que cette violence qui sort comme ça, elle ne sort pas de rien, elle ne sort pas par hasard, elle sort parce que ces gens reçoivent des chocs extrêmement violents. Et on a donc fait des improvisations sur des gens enfermés dans une chambre à gaz, sur des gens pris dans un bombardement en rase-motte, sur des soldats perdus et abandonnés dans un terrain miné et lui-même survolé par des avions. On a fait aussi des improvisations sur le problème de la faim, par exemple. Et tous ces éléments nous ont énormément servi par la suite dans le travail proprement dit de la pièce. Et alors ensuite, on a essayé dans le décor d'avoir la même chose, c'est-à-dire d'avoir une base de meubles, de costumes, d'objets qui soient eux tout à fait réels, et cela se situant devant des panneaux et devant des murs qui sont d'ailleurs fragmentés et mobiles, et qui, eux, ne représentent rien, qui sont une espèce de la vie mentale, si vous voulez, de la vie abstrait, qui permet à la pièce de dégager toute sa poésie, tout son onirisme et tout son lyrisme.
Il y a quelque chose qui intrigue le spectateur quand il regarde le programme, c'est de voir travail vocal confié à Michel Putsch. Alors, qu'avez-vous fait avec ce compositeur ?
Eh bien, il y a déjà quelque temps que je pense que pour arriver à un jeu nouveau pour les acteurs, ce qui est absolument indispensable pour jouer ce théâtre-là, qui ne correspond plus du tout aux notions qu'on enseigne dans les écoles, c'est-à-dire de représenter un personnage avec une psychologie cohérente, d'exprimer des sentiments. Dans ce théâtre-là, on joue complètement une pièce basée sur des magnétismes, sur des forces, sur des électricités, sur des courants. Et le texte raconte autre chose que ce qui est en train de se passer. C'est un espèce de morse qui, dans le cas de Bond et surtout dans le cas de Sauvé, est un espèce de morse extrêmement bref et qui est un espèce de brouillard d'ailleurs, parce que le vocabulaire est très très pauvre et les gens ne sont pas conscients de ce qui leur arrive et par conséquent ils ne trouvent jamais l'expression juste, c'est-à-dire qu'ils disent toujours autre chose ou ils disent un peu à côté. Donc il est nécessaire de donner aux acteurs une technique nouvelle, et je pense que il y a deux plans sur lesquels tout le monde d'ailleurs travaille, c'est-à-dire le développement des signes qui peuvent être donnés par le corps et le développement des signes qui peuvent être donnés par les sons, c'est-à-dire par la voix. Et donc j'ai demandé à Putsch de faire travailler les comédiens pour développer leurs possibilités vocales de façon à ce qu'ils deviennent des instruments aptes à jouer ce théâtre contemporain. Et d'autre part, pour certains changements de décor et pour certaines interventions, j'ai renoncé à la musique enregistrée, dont je me sers par ailleurs parce qu'il y a des impératifs réalistes comme un jukebox dans un café ou comme un transistor dans l'appartement ou comme une télévision dans l'appartement. Mais pour le reste, j'utilise une musique vocale qui est en fait faite par les comédiens et qui a été l'aboutissement de ce travail pour ce spectacle.
Je voudrais vous demander pourquoi ce titre, pourquoi Sauver ?
Bah parce que Bond a énormément d'humour et une immense dérision, et que le vrai titre est que ces gens sont complètement perdus. Il y a d'ailleurs chez les personnages de Bond quelque chose de très naïf, de très enfantin. Et à propos de son personnage de Lear, il dit que ce qui est bouleversant, c'est de voir un homme adulte et même un vieillard pris dans une insécurité d'enfant et pousser des cris et des appels d'enfant, et d'ailleurs n'être pas entendu, et que ce qui est strident, c'est d'entendre ces cris d'enfant chez un homme mûr.
Mais il est aussi question d'un enfant dans Sauvé.
Oui, je crois que Bond a été traumatisé quelque part sur le problème de l'enfance. Je pense qu'aussi, là, il le prend comme représentant dans la hiérarchie des forces sociales ce qu'il y a de plus faible et de plus démuni. Et il ne faut pas le cacher, dans Sèvres, on assassine un bébé dans un landau qui a été abandonné dans un parc par sa mère. Et c'est justement par cet acte que se manifeste la violence dont nous parlions, mais il est bien évident que cette violence vient d'ailleurs, c'est-à-dire qu'elle vient par exemple de toute la fausse sexualité entretenue par la distraction industrielle de la pornographie, et que cet enfant a déjà été assassiné par une espèce de déviation de l'amour à sa conception, à sa naissance, qu'il a continué à être tout le temps assassiné par le fait du milieu dans lequel il vivait, où il était tout à fait indésiré, indésirable et ignoré, et condamné à l'abandon et à la mort. Et par conséquent, si vous voulez, le fait que ces voyous assassinent un enfant dans un parc, pour eux, cet acte a quelque chose de magique. C'est la seule façon qu'ils ont de se donner l'impression d'exister. Et sans qu'ils le sachent eux-mêmes, ils ne font que ressortir la violence qu'ils ont reçue d'ailleurs et de plus haut dans toute cette société qui est une suite de contraintes hiérarchisées dont ils sont l'élément le plus bas, c'est-à-dire le plus écrasé.
Le voyou, c'est Gérard Depardieu, la mère.
La mère, c'est Juliette Braque. Le père, c'est Michel Robin. La jeune femme, c'est Elisabeth Vienner. Et il y a aussi un rôle extrêmement important, qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les pièces de Bond, qui s'appelle Laine, qui est joué par Hugues Kester, qui jouait d'ailleurs déjà le personnage de Laine dans Early Morning. Et puis, il y a jeunes comédiens qui sont des gosses d'une vingtaine d'années qui représentent cette bande de jeunes violents. Et il y a aussi Elisabeth Guy qui joue un autre rôle de femme qui prend la suite de la précédente, qui est plaquée naturellement très rapidement.
Et la scène que nous allons entendre se situe à quel moment de l'action ?
Ben, c'est à peu près au milieu de la pièce. C'est précisément le moment où cette femme qui n'en peut plus, dont la situation est tout à fait intolérable, est prise d'une espèce d'acte fou, c'est-à-dire qu'elle emmène dans le landau cette espèce d'objet dont personne ne sait quoi faire. Elle amène un pêcheur à la ligne complètement connard qui est pour le père présumé de cet enfant, et elle l'abandonne là.
Hello.
Qu'est-ce que tu fabriques ?
Je me promène.
Un peu tard, non ?
Qu'est-ce que t'as pris ?
Rien.
Laisse-moi voir.
Y a rien pour toi.
La ramène pas.
T'as failli nous manquer.
Pas la peine de faire cette tête-là.
On allait partir.
Pourquoi tu trimbales ça?
J'avais envie de me promener.
Un peu tard.
Pourquoi?
Ça devrait être au lit.
L'air frais va pas le tuer.
T'aurais dû faire ça plus tôt.
J'ai pas trouvé le temps, pourquoi tu l'as pas fait toi-même?
C'est ton boulot.
Quand est-ce que je te vois?
Je ferai un tour.
Quand?
Je sais pas.
Quand à peu près?
Plus tard.
Je vais chercher quelque chose à manger?
Non.
Ça me dérange pas?
Tu auras tout préparé chez la vieille.
J'ai deux belles côtelettes.
Tant pis.
Bon. Mais pense-y, y a personne pour le moment, je me suis débarrassé d'eux.
Fallait le dire.
Quand alors ?
Je viendrai.
Sûr ?
Ouais.
Ça veut dire que non.
Comme tu veux.
Mais pourquoi tu le dis pas ?
Voilà.
C'est pas marrant d'attendre toute la nuit pour rien.
T'es prêt ?
Ouais.
Pourquoi tu dis pas la vérité une fois ?
T'as raison, je viens pas.
Pam ?
T'avais pas l'intention de venir.
T'as encore oublié de serrer le frein.
Amène-le, toi, petit malin !
Ouais !
Je le savais très bien.
Allez, ça va, Pam, rentre chez toi.
Fred.
Je sais.
Je voulais pas faire une sortie, je voulais être gentil, je suis pas guérie.
Rentre et mets-toi au chaud, il est tard.
Tu devrais faire plus attention.
C'est de ma faute, je peux pas m'arrêter de penser.
Tu devrais t'arrêter de penser à toi, ouais.
C'est ces pilules qu'on me donne.
Ouais !
Non.
Je passerai un soir la semaine prochaine.
Non.
Lundi soir, qu'est-ce que t'en dis ?
Tu vas changer d'avis.
Tout droit en sortant du boulot.
T'as déjà dit ça avant.
Je peux pas faire mieux.
Je peux pas rentrer maintenant.
Allez, ça ira très bien.
Si je dois rester toute seule dans cette chambre une nuit de plus, je deviens dingue.
T'as le môme.
Rien que pour cette nuit, je pourrais pas supporter d'être toute seule une fois de plus. Fallait que je sorte, je sais pas ce que je fais. Ce gosse devrait être au lit, viens le ramener avec moi. Il a eu une pneumonie une fois.
Rentre-le, toi.
Juste pour cette fois, je te demanderai plus, je demanderai à maman de rester avec moi.
Insiste pas.
Tu l'as pas vu depuis longtemps, hein. Il a pris du poids.
Ah.
Puis il pleure pas comme avant, enfin pas tout le temps.
Il en est plus là.
Ouais, très mignon.
Il voit rien.
Il pionce.
Qu'est-ce que tu lui donnes ?
Aspirine.
C'est bon, ça ?
Il se réveillera pas avant demain, il te dérangera pas. À quelle heure je te vois ?
Je passerai. Je peux rien dire dessus.
Ça m'est égal du moment que je sais que tu viens.
D'accord.
Dommage de gâcher les côtelettes. Je crois que je vais les faire à tout hasard.
Ouais, c'est ça, c'est selon.
J'attendrai.
Ça fera tard, tu sais.
Ça fait rien.
Pam.
Je m'offrirai des chocolats.
Il y a des tas de mecs qui traînent. Pourquoi tu trouves pas quelqu'un d'autre ? Tu peux m'avoir, ma poulette. Mais il faudrait que t'apprennes le respect.
Comment je peux sortir avec ce machin à la traîne ? Qui c'est qui va me regarder ?
Ta vieille t'en débarrassera.
Fais-lui un peu d'oseille.
T'essayes pas.
Je peux pas.
Faudra bien.
Je peux pas, je le ferai pas.
Je vais plus te voir.
Non !
Il faut qu'on en finisse avec cette histoire.
T'as promis !
C'est du temps perdu !
Ils sont témoins !
Non !
Viens, mon vieux.
C'est fini.
Pas trop tôt, on se tire.
Rien que pour cette nuit, ça m'est égal si t'es allé avec d'autres filles. Viens chez moi après, rien que pour une fois, je t'embêterai pas, je te laisserai dormir, je t'en prie.
Merde !
Oh, tu t'en fous bien, toi, hein ? Prends ce mal allongé sur le dos, qui s'est calmé le petit doigt, j'aurais pu crever, pas !
Bon débarras.
C'est toi le père de ce mot, moi ! Tu peux pas sortir de là !
Prouve-le !
Je le sais !
Tu le sais ! Toute la bicoque t'est passée dessus.
C'est le menteur.
Ah ouais? Tu l'as pas eu? C'est toi le prochain. Et toi? Et lui, hein? Ta queue, c'est sûrement la seule qu'elle se soit pas enfilée à 100 km à la ronde.
Je l'éteins.
Ah, on y vient.
Bon.
Voilà qui est mieux, maintenant, taille.
Tu vas. Tu peux emmener ton sale môme chez ta pute, tu lui diras que c'est un calot.
Charmant début de soirée.
Et les voyous arrivent dans une espèce d'inactivité, de sexualité mal répartie et vaseuse et inemployée. Et le jeu, ce jour-là, puisque tous les jours ils inventent un jeu, qui est en général violent, qui sont souvent des violences d'ailleurs à l'intérieur même de leur bande, ils se passent leur temps à se casser la gueule entre eux. Mais ce jour-là, ils ont cet objet magnifique qui est laissé entre leurs mains, qui est tout à fait innocent et faible. Et tout d'un coup, il commence à jouer avec ce landau et ce bébé, et ça va jusqu'à l'assassinat du bébé dans une espèce de grande fête foraine qui atteint à la fois l'horreur et la splendeur.
C'était un extrait des Arts du spectacle de Claire Jordan avec Claude Régis au micro de Monique Sueur, diffusé pour la première fois le 12 janvier 1972 sur France Culture.